RFI, 22h à Paris, 21h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. Après 4 mois de trêve, Israël a bombardé ce vendredi la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah. Le président libanais Joseph Aoun, en visite en France aujourd'hui, a annoncé l'ouverture d'une enquête. Nous l'entendrons au début de ce journal. La terre a tremblé aujourd'hui en Birmanie. Bilan, au moins 144 morts et 732 blessés. La Thaïlande a elle aussi été touchée. Le chef de la junte birmane a lancé un appel à l'aide internationale. En France, réclusion criminelle à perpétuité pour Mounir Bouta, avec une peine de sûreté de 22 ans pour le meurtre de sa femme qu'il avait brûlée vive. Par contre, en Espagne, l'ex-star du Barça, le footballeur Dani Alves, est acquitté des 4 ans et demi pour viol dont il avait écopé. À suivre la correspondance d'Élise Gazangel. Après 4 mois de trêve, Israël a bombardé ce vendredi la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah. Une riposte à un tir de roquette qui a visé son territoire. L'armée israélienne, qui a aussi bombardé le sud du Liban, avait auparavant appelé à évacuer une partie des habitants de la banlieue de la capitale. L'armée israélienne qui affirme avoir visé un entrepôt de drones. Le président libanais Joseph Aoun, en visite en France aujourd'hui, a annoncé l'ouverture d'une enquête. Pierre Olivier.
C'est depuis Paris que Joseph Aoun réagit à ce premier bombardement d'ampleur dans le sud de Beyrouth depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël fin novembre.
Malheureusement, nous venons de recevoir des nouvelles concernant le sud et Beyrouth, ainsi que le retour de l'escalade et des tensions et la reprise des agressions israéliennes contre notre pays. Nous rejetons toute attaque contre le Liban ou toute tentative suspecte et malveillante visant à replonger le Liban dans le cycle de la violence. Et plus encore, cela renforce notre détermination à bâtir notre pays afin de protéger le Liban et l'ensemble de son peuple.
L'armée israélienne, de son côté, affirme avoir répondu à des tirs de roquettes en provenance du Liban, les deuxièmes en une semaine. Mais pour le président Joseph Aoun, il ne s'agit pas de tirs réalisés par le Hezbollah.
Concernant le lancement de roquettes la semaine dernière, l'armée libanaise est en train de mener son enquête pour savoir qui les a lancées. Une autre enquête va être ouverte aujourd'hui, mais notre précédente expérience et les preuves sur le terrain indiquent que le Hezbollah n'en est pas responsable.
De son côté, Emmanuel Macron a dénoncé des frappes israéliennes inacceptables. Il s'entretiendra de ce sujet avec son homologue américain et le Premier ministre israélien.
Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui assure qu'Israël frappera partout au Liban contre toute menace. À noter aussi que ce vendredi, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Téhéran mais aussi de Bagdad et d'autres capitales du Moyen-Orient. Des rassemblements annuels organisés à la fin du Ramadan en solidarité avec les Palestiniens et contre Israël. Au moins 150 morts et plusieurs centaines de blessés, c'est le bilan toujours très provisoire du double séisme qui a frappé la Birmanie et l'Asie du Sud-Est ce matin. Le chef de la junte birmane a lancé un rare appel à l'aide internationale auquel certains ont répondu. L'Inde, qui a aussi ressenti le séisme, propose son aide à la Birmanie et à la Thaïlande, où un immeuble en construction s'est effondré sur des dizaines d'ouvriers. Proposition d'aide aussi de l'Union européenne et de la France. Juste avant de quitter le bâtiment de la Croix-Rouge à Rangoon, Marie Manric, la coordinatrice de la Fédération des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur place, a donné quelques détails à la presse.
Il y a eu un séisme de magnitude 7,7 au nord-ouest du pays et 12 minutes plus tard, un autre de 6,4 plus au sud. Ils ont été ressentis partout en Birmanie. L'immeuble de la Croix-Rouge où je me trouve a dû lui aussi être évacué, mais il n'y a pas que des fissures dans les immeubles. Certains se sont effondrés. Des routes, des ponts, des bâtiments publics ont été endommagés. Dans beaucoup d'endroits, il n'y a plus d'électricité. Il y a des inquiétudes aussi pour les barrages qui sont surveillés en ce moment. On sait aussi que le pont principal qui relaie Mandalay à Sagaing s'est écroulé. C'est une province déjà très touchée par la crise actuelle où il y a beaucoup de déplacés internes. On peut imaginer que les dégâts seront très conséquents.
Des propos recueillis par notre correspondant à Genève, Jérémy Lanche. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué de son côté avoir déclenché son système de gestion des urgences. Pete Hegseth est aux Philippines dans le cadre d'une tournée dans le Pacifique. Le secrétaire d'État américain a réaffirmé l'engagement indéfectible de Washington au traité de défense qui le lie à Manille. Les Philippines accusent la Chine d'actions hostiles répétées en mer de Chine méridionale. Les Philippines, où des milliers de soutiens de l'ancien président Rodrigo Duterte se sont rassemblés ce vendredi pour célébrer les 80 ans de l'ex-homme fort du pays et aussi réclamer sa libération. Rodrigo Duterte est détenu à La Haye par la Cour pénale internationale. Il doit répondre d'accusations de crimes contre l'humanité commis lors de la guerre qu'il avait lancée contre le trafic de drogue, faisant des milliers de morts. En Chine, le Conseil d'État dévoile un plan d'action spécial. Objectif, soutenir une consommation nationale en berne. Un plan proposé à toutes les régions du pays qui vise à stimuler la demande intérieure en augmentant les revenus et en simplifiant l'accès à certaines aides. On veut donc augmenter les salaires, offrir une couverture sociale aux emplois précaires, mais nombreux sont ceux qui ne trouvent pas cela suffisant. Reportage Claire Broderst.
Dans les rues de Ohot, en Mongolie intérieure, les habitants écoutent d'une oreille sceptique les promesses de Pékin. Les mesures proposées telles qu'une augmentation des pensions de retraite ou la création d'un système de garde d'enfants subventionné ne suffisent pas pour Li, une jeune mère de famille.
Je pense qu'en fin de compte, ce sont les dépenses de la vie quotidienne qui comptent. C'est à cela que sert la majeure partie des dépenses d'une famille. Pour les familles avec enfants, il s'agit généralement d'acheter des vêtements, de payer des cours de soutien ou des cours extrascolaires, ainsi que la nourriture quotidienne et les frais divers. Je préférerais donc que les subventions soient concentrées sur les dépenses de la vie quotidienne.
Face à l'incertitude économique, les ménages préfèrent épargner plutôt que dépenser. Yue, une jeune femme sur le point de se marier, dit même ne pas vouloir d'enfants afin d'économiser davantage.
Honnêtement, de l'aide financière sur tout ce qui est pratique serait bienvenue. La plupart des gens ont déjà des appareils électroménagers maintenant, alors que peut-être que quelque chose pour la rénovation d'une maison serait utile. Après le mariage, on rénove ou on achète une nouvelle maison. Il nous faudrait une aide au logement.
À Ohot comme ailleurs, les habitants attendent des mesures concrètes pour relancer la consommation, mais surtout améliorer leur quotidien. Claire Broderst, Chosian Yuan, Ohot, RFI.
Volodymyr Zelensky accuse Vladimir Poutine de chercher à faire traîner la guerre. Réaction du président ukrainien après l'évocation par le président russe d'une administration transitoire pour l'Ukraine sous égide de l'ONU avant toute négociation de paix. Une option qui implique le départ de Volodymyr Zelensky. Par ailleurs, le président ukrainien a annoncé avoir reçu des États-Unis une nouvelle version de l'accord sur les minerais stratégiques de l'Ukraine, auquel Washington veut un accès. Les détails de la nouvelle version n'ont pas encore été rendus publics officiellement, mais des députés et des médias ukrainiens la qualifient déjà d'inacceptable. Copenhague n'a pas fait du bon travail au Groenland. C'est ce qu'a estimé ce vendredi le vice-président américain J.D. Vance en visite dans la seule base militaire américaine de ce territoire autonome qui dépend du Danemark. Et Donald Trump a répété ce vendredi qu'il voulait le Groenland, affirmant « c'est très important pour la sécurité internationale ». En France, réclusion criminelle à perpétuité pour Mounir Bouta, avec une peine de sûreté de 22 ans pour le meurtre de sa femme. Ce maçon franco-algérien avait tiré au fusil dans les jambes de la victime avant de la brûler vive. Depuis l'ouverture des débats ce lundi, Mounir Bouta a affirmé qu'il voulait faire peur à sa femme et non la tuer. Il pensait qu'elle lui était infidèle. En Espagne, le footballeur brésilien Dani Alves a lui été acquitté en appel après avoir été condamné en première instance pour viol d'une jeune femme dans une boîte de nuit de Barcelone. C'était en décembre 2022. À Barcelone, la correspondance d'Élise Gazangel.
À la surprise générale, c'est un acquittement à l'unanimité qui a été prononcé ce vendredi par le tribunal supérieur de justice de Catalogne. Il y a un an, Dani Alves, ex-footballeur brésilien, avait pourtant été condamné à 4 ans et demi de prison pour avoir violé une jeune femme dans les toilettes d'une discothèque de Barcelone. Mais les 4 juges de la cour d'appel ont révoqué cette condamnation, estimant que le témoignage de la plaignante présente, je cite, des failles, imprécisions et contradictions. Par conséquent, le doute persiste et doit profiter à l'accusé. Ce verdict a provoqué l'indignation des collectifs féministes ici. La ministre du Travail, Yolanda Díaz, a elle exprimé son total soutien à la victime et son inquiétude quant à la revictimisation de la plaignante qui, selon elle, doit souffrir énormément. De son côté, ému, l'avocate du sportif a exprimé sa joie et celle de son client. Cette décision n'est toutefois pas définitive. Le parquet et la partie civile étudient un possible recours. Élise Gazangel, Barcelone, RFI.
Et la ministre de l'égalité espagnole a appelé le pouvoir judiciaire à entamer une réflexion. On ne peut pas être en permanence en train de questionner la parole des femmes. RFI, 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal.